Info, excellente matinée.
Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Très bonne matinée à vous, c'est ce que je vous souhaite. Et puis aussi un bon réveil, hein, si vous venez de mettre le pied par terre. Alors dites-moi le matin, vous êtes thé, chocolat ou café ? Alors il paraît que lorsqu'on a un peu le temps, le petit déjeuner au lit est un moment rare et précieux. Une parenthèse dans la semaine. Eh oui, le corps et l'esprit se réveillent en douceur, prêts à savourer enfin la douceur de vivre. On en est persuadé, la preuve, avec le groupe Chanson Plus Bifluoré.
Voilà l'histoire du petit déjeuner au lit.
Café au lit, tartine à tremper, ça tâche. Il y a de la confiture, plein de couverture, ça tâche. Et le café de la tartine qui dégouline sur l'oreiller, ça tâche. Pendant que d'une main on veut essuyer le miel de sapin sur la laine de pigne, de l'autre on renverse le reste de café. Ça brûle, ça traverse quand le jus se déverse.
Alors,
biscuit au beurre, ça gratte des heures. Les miettes, faut défaire les draps jusqu'au bas de la limiette. Pour secouer, on sort du lit sur le tapis et sous les pieds, les miettes. Elles ne s'écrasent en crissant, le beurre étalé tout mou, tout collant, tout plein sous les pieds, on court dans la cuisine. Chercher le balai, le savon, la bassine, et comme à la cantine, il faut frotter.
Petit déjeuner au lit, effet romantique garanti entre les draps. Elle te sourit, et la fille qui attend dans ton lit, qui attend.
Savon mélangé, ça tâche. Ok, le mixture sur la couverture, ça tâche. Y'a le café qui fait de la mousse, ça éclabousse tout l'oreiller, ça tâche. Et quand tu l'as fini, tu te prends les pieds dans les mauvais plis du tapis, mouillé la fourchette en argent, voltigé, bien piqué. La fille romantique, la fille romantique où j'ai coulé.
Petit déjeuner au lit, effet romantique garanti entre les draps. Elle te sourit, la fille qui attend dans ton lit, qui attend dans ton lit, qui attend dans ton lit.
La 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 la
c'est romantique, garanti entre les draps, seul dans ton lit.
Déjeuner au lit avec Radio Plus. Et alors attention, justement, on ne saute pas le petit déjeuner car c'est le repas le plus important de la journée. Tous les nutritionnistes, les médecins, les diététiciens vous le diront car il apporte la force nécessaire pour attaquer la journée à condition, bien sûr, qu'il vienne après une bonne nuit avec un bon sommeil. Alors, si vous avez des troubles du sommeil, peut-être. Ah oui, eh bien, êtes-vous certain de ne pas vous trouver dans un champ magnétique? Les scientifiques ont constaté, en effet, des troubles du sommeil chez les voisins d'antennes relais et ils s'affolent à l'idée de voir s'installer la 5G qui, pour eux, sera une véritable catastrophe sur le plan sanitaire. Alors, certains luttent contre cette installation. Je me souviens que, et vous vous en souvenez sans doute aussi, Pierre Rose du collectif FACAD nous avait exposé les problèmes de cette nouvelle technologie incompatible avec la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, technologie annoncée comme catastrophe sur le plan sanitaire, car notre santé va en prendre un sacré coup. Alors nous demanderons l'avis de Jean-Louis Ouetté, président de l'Étrême Nature dans Saletant sur la planète. Mais surtout, aujourd'hui, on verra, nous nous tiendrons à voir le problème sur la, enfin, l'impact de cette 5G sur la biodiversité. Et puis, loin des antennes relais, mais à côté du nid de cigogne de son association des paysages et jardins des hommes, nid situé en hauteur, lui aussi, Bertrand Trinel, continue de cultiver son jardin et encore aujourd'hui, il nous donnera quelques-uns de ses précieux conseils. Et on continuera, voyez-vous, à prendre l'air en nous promenant à vélo. Et oui, le vélo, c'est bon pour l'environnement, pas de rejet de gaz à effet de serre, de microparticules ou d'émanations toxiques. Pas de bruit, la pratique cycliste apaise la ville et améliore ainsi la qualité de vie de tous. De plus, le vélo est silencieux et préserve l'environnement sonore. Oui, mais si le vélo rencontre de plus en plus d'adeptes, la conduite en ville n'est pas toujours simple et bon nombre de cyclistes sont victimes d'incivilité. Peut-être à cause d'une mauvaise connaissance du code de la route, tout simplement. Alors, petit rappel avec Daniel Dourlan, correspondant à DAV du Béthunois, la DAV étant l'association Droit au Vélo. Voyez-vous, donc une heure encore bien chargée en informations, mais tout de suite musique avec Juliette. Et puisqu'on parle de vélo, eh bien je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre cette chanson. Un vrai petit bijou, comme tout ce que fait Juliette d'ailleurs.
Petit vélo rouillé dans un grincement minable tourne sur mon oreiller une ronde interminable. Il va le guidon tordu, braque-balle et roues voilées, indifférent et têtu, sur le point de dérailler. Petite reine abîmée par ses courses sans victoire qui laisse mon âme tachée du cambouis des idées noires. Ainsi vont mes nuits sans toi à le regarder tourner en comptant du bout des doigts ces tours de piste obstinées.
125e tour. Le sentiment de culpabilité laisse place à la parano.
Un petit vélo rouillé dans un grincement bizarre n'en finit pas de rallier la raison au cauchemar. Il va en suivant sa route sans pilote ni passager. Ce n'est rien qu'un petit doute dont les freins auraient lâché. Et sur la piste ensablée des bas-fonds de ma mémoire, il fait tintinabuler la sonnette des cils noirs. Ainsi vont mes nuits sans toi à le regarder tourner en comptant du bout des doigts ces tours de piste obstinées.
653e tour.
Petit vélo rouillé dans un voix grassement sordide prend un chemin embrouillé, pédale dans le vide. Il va roulant sur la chante, de plus en plus déglingué, traçant d'une roue méchante, cercle vicieux et vicié. Pour ne pas le voir zigzaguer, je crains qu'il ne soit trop tard. J'ai sur mes deux yeux crevés la rustine décidée de part. Ainsi vont mes nuits sans toi, à le regarder tourner, en comptant du bout des doigts ces tours de piste obstinée. Ainsi vont mes nuits sans toi, soufflant et suant mille peines, dans le désert de nos draps, attendant que tu reviennes. Tu vas d'un mot adorable, sûrement le faire tomber, ce petit vélo misérable qui m'aura le cœur cassé. Il n'y a que toi pour montrer combien il est dérisoire, tout en pièces détachées, le cycle des idées noires. Mais je sais qu'il reviendra quand tu auras le dos tourné. Réparé, il reprendra ses tours de piste obstinées.
Juliette sur Radio Plus. Alors notre enquête dans l'air du temps, ce temps qui est au centre de nos préoccupations, nous le dépensons, nous le gaspillons, nous n'en avons jamais assez. On parle même de famine du temps. Et oui, nous sommes 34% à nous sentir pressés par le temps en permanence, 61% à n'avoir jamais de temps libre et 40% à dire que le temps est un problème plus important que l'argent. Le temps a la fâcheuse habitude de nous glisser entre les doigts, nous donnant l'impression d'être impuissants face à lui. En plus, l'enquête montre que nous ne travaillons pas plus qu'avant et les recherches montrent même que le nombre d'heures de travail a baissé depuis les années 60. Alors trouvez l'erreur, autant suspend ton vol, comme dirait l'autre.
Je te propose le temps des cerises et des roses, le temps des caresses soyeuses, laissons du temps à la douceur des choses. Et si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues, prenons du temps pour les choses d'importance. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le temps perdu. Restons tranquilles, immobiles, sans un bruissement d'ailes, sans un battement de cils. Et contre l'implacable, contre le vacarme du diable, trouvons du temps pour l'impossible, pour l'inespéré, pour l'imprévisible. Et contre l'éphémère, contre la cruauté première, contre le marbre de nos tombes, prenons tout notre temps à chaque seconde. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le doux temps perdu. Soudain les voilà dans nos mains, toutes vives, toutes chaudes, toutes nues. Je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, laissant du temps à la douceur des choses.
Prenons du temps pour la douceur des choses. Carla Bruni pour les paroles et la musique, et bien sûr pour le chant, et c'est sur Radio Plus. Alors, plus rapide, plus réactif, plus connecté, prendre le temps. Mais non, on ne prend plus le temps, il faut toujours aller plus vite, et la 5G va permettre d'aller vite, beaucoup plus vite, peut-être pour arriver dans le mur.
Satan sur la planète.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Alors ça se précise pour l'arrivée de la 5G en France. Beaucoup d'associations ou de collectifs dénoncent l'installation de cette nouvelle technologie pour différentes raisons. Et d'ailleurs, dans une émission précédente, eh bien Pierre Rose du collectif ACAD nous avait expliqué pourquoi, n'hésitant pas à qualifier ce réseau de cinquième génération pour la téléphonie mobile comme futur cauchemar qui se prépare. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors, jamais un standard de téléphonie mobile n'aura été autant décrié et beaucoup s'accordent à dire que c'est une bien mauvaise nouvelle pour l'environnement. Alors Jean-Louis, si vous le voulez bien, on laissera de côté aujourd'hui toutes les conséquences néfastes sur la nature en général, sur notre santé, ainsi que tous les effets pervers comme la cybersurveillance. Il y a beaucoup trop à dire et à commenter sur ce sujet et le temps ne nous le permettrait pas. Et nous nous attacherons donc aujourd'hui à appréhender les conséquences éventuelles sur la biodiversité, c'est-à-dire sur la faune, en particulier sur les insectes, les oiseaux, à laquelle vous êtes très attaché, et c'est d'ailleurs le leitmotiv de votre association Les Traits de Nature. Alors Jean-Louis, avez-vous des informations là-dessus? Parce que, en fin de compte, tout est dit et son contraire. Par exemple, est-il vrai qu'une étude financée par l'Union européenne aurait constaté que les rayonnements de la 5G peuvent faire grimper la température à la surface des insectes bien plus qu'avec les ondes de la 3G ou de la 4G?
Oui, alors c'est vrai que l'arrivée de la 5G, ça suscite de nombreuses inquiétudes sur l'impact potentiel sanitaire, environnemental, et donc ça nourrit de nombreuses interrogations. Alors il y a certaines qui sont fondées, d'autres en revanche qui s'appuient sur des approximations. C'est pas évident de pouvoir faire le tri. Bon, par exemple, on a parlé de centaines d'oiseaux qui sont morts lors d'une expérimentation de la téléphonie mobile 5G. En fait, c'est dans un parc de La Haye aux Pays-Bas. On a retrouvé plus de 300 étourneaux morts entre le 19 octobre et le 23 novembre. Alors, ça n'a rien à voir avec la 5G. Hein. C'est lié à un empoisonnement avec on a fait des analyses, et puis c'est des traces de poison d'arbustes, hein, donc naturels, c'est des ifs. Hein. Et donc, ça a tué ces étourneaux. Donc, il y a beaucoup de bruit qui court. Ensuite, on a parlé des insectes, effectivement. C'est une information qui a été transmise par le journal suisse le matin. Ça ferait grimper la température corporelle des insectes. Ça a été aussi déformé par d'autres médias, une poussée de fièvre chez les insectes. Le problème, quand même, il y a un sérieux problème, c'est qu'on a beaucoup d'incertitudes concernant les capacités thermiques et spécifiques des insectes. Là aussi, au niveau insectes, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, et notamment sur les mécanismes de dissipation de la chaleur. Et c'est quand même un sujet à prendre en considération, parce que les ondes électromagnétiques, l'effet important, c'est un effet thermique, hein, ce qui veut dire concrètement une augmentation de la température des tissus de la peau, et ça c'est indéniable. Et donc même l'ANSES, hein, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, pointe du doigt le manque de données, hein, les données de la recherche sont encore peu nombreuses, écrit l'ANSES, qui est préjudiciable pour l'étude des conséquences éventuelles. Bon, bien entendu sur la santé des populations, mais c'est aussi sur les insectes. Hein. Et donc, c'est vrai qu'on manque beaucoup d'études et que, encore une fois de plus, hein, on se lance dans une opération avec un objectif industriel, économique, et puis l'environnement, les effets sur l'environnement, on verra après, quoi. Donc,
Encore une fois, on met la charrue avant les bœufs.
On met la charrue avant les bœufs.
Alors, les choses à faire au jardin, attendez.
Voilà, je me trompe de page.
Oui.
Je suis pas vers Sentinelle.
Alors, Jean-Louis, justement, il est temps. Si, j'en arrive au jardin, attention. Hein.
Ouais.
Parce qu'on dit aussi que les arbres seront touchés.
Ah, voilà, ça y est.
Voilà. Un rapport officiel du gouvernement anglais qui date de 2018 a montré, lui, que les feuilles des arbres pourront absorber jusqu'à 90% des rayonnements 5G. Or, sur les réseaux sociaux, comme sur des blogs spécialisés, eh bien, il y a des internautes qui s'alarment régulièrement de voir les arbres abattus dans différentes villes. Alors, y a-t-il relation de cause à effet ?
Oui, alors, il y a eu une étude anglaise, qui quand même rappelait cette étude anglaise, c'est qui a montré que la 5G... faut savoir que la 5G, elle utilise des bandes de fréquences bien particulières, mais bon, il y a de la marge encore sur ces bandes de fréquences, et donc sur certaines bandes de fréquences, la 5G ne pénétrerait pas bien les objets, et en particulier ces ondes seraient bloquées par les arbres et la pluie. Donc c'est là aussi où on s'est dit que bah, si c'est ça, c'est qu'il va falloir couper les arbres, etc. Donc, c'est un rapport qui est paru en 2018, et donc, mais on a dit par exemple qu'à Grenoble, bah, du coup, il y a eu des arbres qui ont été coupés, bah, c'est parce qu'on va faire arriver la 5G, ce qui m'a surpris quand même pas mal, puisque la ville de Grenoble, il faut savoir que c'est l'une des grandes villes qui est gérée par des écologistes. Et donc, en fait, il n'y a aucun arbre qui a été coupé à Grenoble pour la 5G. Hein. Il y a des arbres qui ont été coupés dans une avenue parce qu'il y en avait un certain nombre qui étaient malades et que c'était un problème pour la sécurité. Et donc, on n'a pas coupé les arbres pour la 5G. Donc, il y a beaucoup de choses qui circulent. Et bon, c'est vrai qu'il faut être vigilant parce que là aussi, manque d'études et manque de préparation.
En tout cas, c'est quand même rassurant, ça.
Voilà.
Alors, Jean-Louis, 170 scientifiques issus de 37 pays ont signé un appel demandant à l'ONU d'agir pour stopper le déploiement de la 5G, car cette fuite en avant technologique ne repose que sur des impératifs économiques et matérialistes, au détriment de l'intégrité de la biosphère, donc de tous les êtres vivants. Alors cette évolution nous mène vers une servitude volontaire au détriment de l'intégrité humaine et porte atteinte aux écosystèmes.
Oui, alors, donc c'est tout à fait exact, hein, c'est 170 scientifiques qui sont issus donc de 37 pays, ont signé cet appel à l'ONU, et on peut y lire justement dans cet appel, clairement, si les plans de l'industrie des télécommunications pour la 5G se concrétisent, pas un être humain, pas un mammifère, pas un oiseau, pas un insecte, pas un brin d'herbe sur Terre, quel que soit le lieu de la planète où il se trouve, ne pourra se soustraire à une exposition 24 heures sur 24, 365 jours par an, à des niveaux de rayonnement de radiofréquences qui sont des dizaines, voire des centaines de fois supérieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc toutes les issues de secours seront barrées. Ces plans pour la 5G risquent d'avoir des effets graves et irréversibles sur les êtres humains et de causer des dommages permanents à tous les écosystèmes terrestres. Des mesures immédiates doivent être prises pour protéger l'humanité et l'environnement conformément aux impératifs éthiques et aux conventions internationales. Donc je pense que cet appel, il est quand même très très clair, et malheureusement j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup été entendu, hein, puisqu'on en est maintenant au stade de partage des fréquences.
Alors, comme vous dites, hein, bien sûr, difficile d'y voir clair, car d'une part, il y a de vrais scientifiques, médecins, y compris, qui argumentent leur prise de position contre la 5G. Et puis, comme on l'a dit aussi, il y a les fausses nouvelles, fake news, comme on les appelle, comme toujours. Hein. Mais il y a aussi ce qu'on nous cache, là aussi, comme toujours, puisque c'est encore une affaire de gros sous, comme on dit, et donc de lobby. Pas facile, Jean-Louis, de démêler le vrai du faux, surtout que, comme souvent, les médias font des raccourcis dans la divulgation d'informations. Alors, votre conclusion, Jean-Louis ?
On assiste encore une fois à une fuite en avant technologique et ultra-libérale qui ne repose que sur des impératifs économiques et matérialistes au détriment de l'intégrité de la planète, hein, et de tous les êtres vivants. Donc ça, nous, cette évolution, ça nous mène vers une servitude volontaire au détriment de l'intégrité humaine, et puis en portant atteinte aux écosystèmes, Et donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un processus massif d'extinction de vie? On regarde la perte de la biodiversité, d'effondrement des écosystèmes. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, et j'aurais voulu quand même citer qu'il y a quand même des régions qui se mobilisent. Je prends par exemple la Wallonie, hein, en Belgique. Le gouvernement wallon a mandaté un groupe d'experts pluridisciplinaires, là aussi pluridisciplinaires, c'est important, parce que si on ne met que des scientifiques, c'est des problèmes aussi sociologiques, des problèmes de santé. Donc, pour ce gouvernement wallon a mandaté un groupe d'experts pour, un, dans un premier temps, évaluer le déploiement des technologies en matière de transmission de données sur le plan environnemental et notamment pour l'impact sur la biodiversité et la faune. Chez nous, on n'en parle pas beaucoup. Sur la santé publique, bien entendu, et puis sur la vie privée. Et deux, eh bien, ce groupe d'experts sera chargé de procéder à des évaluations régulières, examiner les conditions relatives à la protection contre les éventuels effets nocifs et les nuisances provoquées par les rayonnements. Donc c'est une position qui me paraît assez claire. Et puis la Wallonie entend défendre au niveau européen l'adoption d'une norme commune aux États membres. Je pense que là, l'Europe est quand même un rôle important à jouer.
Eh bien, merci Jean-Louis pour cet avis donné. Et puis, je vous souhaite une très très bonne semaine.
Bonne semaine à tous.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Dans la nuit, les oiseaux perdent leurs plumes. Au clair de la lune, les avions s'allument. Sur prairies, sur forêts, sur coccinelles, poussent des cancers cruels. La ville est nouvelle, elle est nouvelle. Le monde change de peau, sera-t-il laid ou bien beau? Couvert de couleurs peinture ou de vert nature? Le monde change de peau, roudoudou et berlingot. Sera-t-il doux et sucré comme la liberté? Qui joue quand les enfants dans les journaux et sur les ondes, on sent qu'un monde vient au monde, qu'il soit trop tard ou trop tôt, le monde change de peau, le monde change de peau. Où sont-ils les petits jardins bucoliques, petite place de la République avec son kiosque à musique? Sous préfet et jours de fête, saxophone et clarinette, ça sent la moulinisette, oh ça sent la nisette. Le monde change de peau, sera-t-il laid ou bien beau? Couvert de couleurs peinture ou de vert nature? Le monde change de peau, roudoudou et berlingot. Sera-t-il doux et sucré comme la liberté? Qui s'est caché dans du ciment, entre toi et le cœur des gens, fatigué? Comment s'appelle ce nouveau-né, sorti de ce ventre étonné? Mais qu'il soit laid ou qu'il soit beau, le monde change de peau. Le monde change de peau.
Alain Souchon sur Radio Plus. Où sont-ils les petits jardins bucoliques? Demandait Alain Souchon. Eh bien, il ne sait pas si bien dire, puisque nous retrouvons Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Eh oui, joint larmoyeux rend le laboureur joyeux, dit un dicton. Eh oui, on a besoin d'un petit peu de pluie, de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil. C'est le temps idéal et c'est en tout cas celui qui rend Bertrand Trinel heureux avec cette affirmation. En juin, pluie au soleil,
En juin, pluie au soleil uni fait prévoir une récolte bénie. Ça, c'est de vous, Bertrand. Bonjour, Bertrand.
Bonjour, Martine. Et bonjour aux auditeurs.
Alors, avant de poursuivre, Bertrand, une petite annonce. La semaine dernière, nous avons beaucoup parlé tomates, vantant la tomate ancienne, celle que l'on repique encore actuellement et qui donnera de beaux fruits de saison au goût savoureux, fin août, début septembre, hein, bien sûr. Et vous nous avez donné les astuces pour les élever au mieux en évitant le mildiou et la sécheresse, à savoir que l'émission peut être réécouté en podcast sur le site de Radio Plus pour ceux qui n'ont pas pris de notes. C'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens qui disaient ne jamais réussir leur pied de tomate. Alors, vos astuces sont excellentes, Bertrand. Pour ma part, je vais essayer cette année. Donc, il faut savoir qu'on peut encore repiquer des pieds de tomates. Et vous nous dites que l'association de réinsertion Réagir, partenaire de PJH pour la fête de la tomate, située, alors cette association est située rue de Derrière à Paradis-les-Trèmes. Eh bien, cette association a encore quelques centaines de beaux plants de tomates anciennes à vendre. Est-ce que c'est encore vrai?
Oui, c'est effectivement, et c'est encore vrai, ils ont encore quelques centaines à vendre. Alors n'hésitez pas à aller en acheter, puis en même temps, vous allez découvrir cette belle association de réinsertion. Et puis pourquoi pas leur acheter d'autres légumes, parce qu'ils cultivent pas mal de légumes en culture biologique. Donc c'est vraiment très bien.
Alors, les choses à faire au jardin au mois de juin, Bertrand, ne manque pas. Il y a les semis, les plantations, les tailles, les tontes, etc. Le jardinage occupe une grande partie de son temps libre. Alors, nous allons parler taille. On peut tailler tous ces arbustes à floraison printanière déjà, qui sont à présent bien défleuris, Bertrand. Et quelqu'un m'a dit qu'il fallait en profiter pour couper les drageons. Expliquez-nous, Bertrand, ce qu'est un drageon.
Oui, alors bien sûr, c'est le moment de tailler tous les arbustes à floraison printanière, hein, pour qu'ils puissent produire de nouvelles pousses bien florifères pour le printemps suivant, hein, pour le printemps prochain. Alors, les fruitiers ou certains arbustes à fleurs, par exemple le lilas, sont greffés sur des porte-greffes. Alors, c'est beaucoup plus simple pour obtenir rapidement un nouveau plant identique au pied mère de les greffer sur des porte-greffes, de faire du greffage plutôt que des semis, qui vont pas toujours être fidèles. Alors, seulement, il arrive parfois que le porte-greffe va émettre des drageons. Donc, ce sont des nouvelles pousses qui vont démarrer sous le point de greffe, donc en dessous du point de greffe. Tout ce qui pousse en dessous, ce sont ce qu'on appelle les drageons, ça part du porte-greffe. Donc si vous les laissez pousser, ils auront vite fait de reprendre le dessus, et puis en quelques années, vous allez vous retrouver avec un arbuste qui n'aura plus rien à voir avec celui que vous avez acheté. Par exemple, il y a des lilas qui sont greffés sur des troènes. Si vous laissez pousser des drageons, dans quelques années, le troène va prendre le dessus sur le lilas. Voilà. Donc il faut donc les couper le plus rapidement possible, si vous voulez pas être embêté par la suite. Voilà. Et puis pas affaiblir votre arbuste aussi.
Alors justement, certains bambous font des drageons, et ceci est un sacré inconvénient car ils poussent partout. Alors vous n'auriez pas une astuce, Bertrand, pour pallier cette conséquence fâcheuse?
Alors, tout d'abord, les bambous n'émettent pas de drageons.
Ah d'accord, hein, j'ai tout faux encore.
Non, c'est pas, j'avais pas des drageons, c'est mais des turions. Donc il y a deux sortes de bambous. Il y a les cespiteux qui vont pousser en touffe comme une plante vivace, et la touffe va s'élargir lentement. Et puis il y a les traçants, alors c'est ceux dont vous parlez, hein. Voilà, les traçants qui vont émettre des tas de racines, hein. Donc les bambous, c'est une graminée, hein, dont les racines sont des rhizomes, et les bambous traçants vont émettre des rhizomes qui peuvent aller à plusieurs mètres autour de leur touffe, et chaque année s'agrandir comme ça, donc ils peuvent devenir très très vite envahissants.
Ah oui.
Donc c'est en juin que vont apparaître les turions. Hein. Ce que vous parlez de drageons, ce sont les turions, les pousses qui arrivent, hein. Et ce que certains appellent à tort les drageons. Donc c'est un cycle normal de la vie des bambous. Donc ces turions vont rapidement se développer pour nouer une nouvelle canne, une nouvelle branche, enfin c'est pas une branche, c'est une canne qui va pousser, et lorsque cette dernière atteint la croissance de l'année, et ben c'est fini, elle va plus du tout, elle arrête sa croissance, définitivement, elle sera jamais plus grande. Elle va pas repousser une seconde l'année prochaine, elle va pas pousser pour vous, non, elle a atteint sa croissance. Donc il faudra attendre quand même l'année suivante pour avoir des nouvelles pousses, donc souvent c'est en juin que ça arrive, que les turions sortent de terre. Et puis il faudra à peu près une dizaine d'années quand vous plantez un pied de bambou, pour que la hauteur qui est donnée, la hauteur définitive adulte, arrive. Si vous avez des bambous qui doivent faire 13 mètres, la première année, les turions vont pousser à 1 mètre, après la seconde année, peut-être à 3 mètres, à 4 mètres, et ainsi de suite. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, tous les turions pousseront à 13 mètres. Voilà.
Oui, alors, mais Bertrand, alors ces turions poussent un peu partout, parce que ça...
Ils poussent partout, parce que les rhizomes se développent autour de la touffe. Hein.
Et on peut rien faire contre ça.
Ah si, bien sûr qu'on peut faire quelque chose. Donc, alors, je vais y venir... Voilà, on peut déjà, si jamais vous n'avez pas fait ce que je vais dire après, En juin, les tourillons sont très tendres. Un coup de tondeuse dessus, vous coupez toutes les branches qui vont pousser. Toutes les quintes qui peuvent pousser sont définitivement coupées. Par contre, pas les rhizomes. Donc, lorsqu'on plante des bambous, il est impératif de mettre une barrière anti-rhizome. Donc, ça se vend en rouleau. Donc, c'est un plastique noir très épais qui fait environ 1,5 mm d'épaisseur. Il est spécialement conçu pour bloquer les rhizomes de bambous. Mmh. Il a une hauteur de 60 cm. Donc, nous, quand on va mettre des bambous, on l'enterre cette barrière anti-rhizome à 55 cm de profondeur et on laisse dépasser 5 cm. On l'enterre légèrement incliné vers l'extérieur et puis à l'endroit du raccord, alors là c'est impératif, il faut mettre des barres de fer, hein, des plaques de fer et qu'on va boulonner. Il faut surtout pas qu'il y ait de trous ou quoi que ce soit parce que sinon les rhizomes trouvent leur passage et puis ils vont continuer l'envahissement. Donc, comme je disais, la barrière anti-rhizome doit dépasser 5 cm, ça va vous permettre de vérifier rapidement si un rhizome a envie de franchir le mur. Parce que si jamais il passe au-dessus en juin ou un peu plus tard, il suffit de le couper au sécateur pour pas qu'il envahisse le reste. Voilà. Donc c'est très important de mettre une barrière anti-rhizome. Alors on peut éventuellement mettre des bambous, ce que j'avais dit au départ, hein, des bambous cespiteux qui poussent en touffe. Mais même là, moi je conseille une barrière anti-rhizome. Personnellement, moi j'adore les bambous, donc il faut juste prendre un peu de précaution quand même.
Oui, il faut absolument
si
prendre des précautions.
Si vous n'avez pas une barrière anti-rhizome, soit vous attendez, parce que les bambous vont, c'est une graminée un peu comme le blé, quand le blé est mûr, les tiges meurent, le bambou, peut-être, certains vont, au bout de 10 ans, ils sont mûrs, et puis les tiges vont mourir au bout de 10 ans, d'autres, il faudra falloir 60 ans, 70 ans, 80 ans, mais il arrive un moment où quand ça fleurit, le bambou meurt. Donc si vous savez le temps d'attendre, le jardin sera envahi, mais bon.
Oui, bon, d'accord.
Non, mais il y a certaines personnes qui font venir une grue pour tout enlever. Hein.
Oui. Ah oui, ça peut devenir une horreur. Hein.
Ah oui, tout à fait.
Alors Bertrand, même si certains en doutent, on s'en va vers une nouvelle saison sèche. Alors il y a une plante vivace qui résiste très bien et qui apprécie d'ailleurs les terrains secs. C'est le Sedum reflexum angelina. Et là aussi, un peu comme les bambous, elle s'étale rapidement, mais alors là, sans inconvénient. Et en plus, c'est une plante très mellifère.
Oui, tout à fait. Et comme la plupart des sédums, hein, ils vont résister parfaitement à la sécheresse. Hein. C'est pourquoi on utilise beaucoup de sédums quand on veut faire un toit végétal. Hein. Donc c'est intéressant pour ça également. Alors le Sedum reflexum angelina, c'est une plante assez rare. Hein. Il a un beau petit feuillage doré et puis un port très étalé. C'est vrai que ça gagne très vite. Hein. Ça fait très vite. Ça peut prendre vite à peu près un demi mètre carré rapidement. Donc ces fleurs sont jaunes vives, très mellifères. Et elles attirent de nombreux pollinisateurs. Donc c'est une petite plante d'environ 15 cm de haut, qui s'étale rapidement, et puis voilà, par ses tiges, tout ça, on peut la multiplier, il suffit de prendre un morceau de tige de cette plante, on la met en terre, ça repousse, tous les sédums repoussent de façon incroyable. Ça pousse tout seul, ça se bouture tout seul, donc il apprécie les terrains secs, ne nécessite pas d'entretien, quasiment pas d'entretien. On coupe juste les tiges fleuries qui, quand elles sont desséchées au printemps, et puis c'est parti.
Ah oui, ça
donc,
repart.
Pas de maladie, il supporte tout.
Bertrand, merci. Alors, samedi, nous pouvions visiter le jardin de l'ermite, c'est-à-dire le jardin de votre association des paysages des jardins et des hommes, et nous avons pu nous rendre compte que tout y poussait très bien et de façon la plus naturelle possible, et les cigognes étaient là. Un nid de cigognes, c'est quand même plus beau, n'est-ce pas, Bertrand, qu'une antenne relais.
Il n'y a pas photo. Et aucune onde nocive. Hein.
Voilà,
rien que la beauté de la nature.
Tout à fait. En tout cas, Bertrand, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à lundi.
Oui, bonne semaine.
Attends. Et maintenant, nous allons faire un petit peu de vélo, voyez-vous. Merci, Bertrand.
Eh bien voilà. Allez, bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Au revoir.
Le temps passe, le temps presse, on fait tout à toute vitesse, sans penser, sans réfléchir, pour faire, pour agir, on s'emballe, on s'agit, au plus simple et au plus vite, pour parer au plus pressé, au mépris des vrais dangers, au bazar de l'éphémère, on vend tout et son contraire, vite fait, mal fait, la rançon de l'à peu près, jusqu'au jour de la facture, au réveil de l'imposture, on comprend mais un peu tard, qu'on sait bien laisser avoir. on s'entasse, on se presse sur les routes à grande vitesse, où on rêve en haut débit, aux mêmes envies. On convoite, on achète, on consomme et puis on jette, pris dans des pièges à souris, aux faux airs de paradis. Défenseur de la nature, on se perd en conjecture, tout est bio, tout est bien, pour de faux, mais ça fait rien. On est vert, on est sage, on est surtout vert de rage. Aujourd'hui l'humanité perd sa vie à la gagner. On piétine, on s'enfonce, submergé des faits d'annonce, englouti sous les sondages, le son, l'image. Il faut occuper l'espace, être premier de la classe, l'emporter sur le poteau, tricher s'il le faut, promulguer en toute hâte des mesures de carton-pâte, prises à tort et à travers pour brasser des courants d'air. Cependant qu'avec ivresse, on imprime et on compresse la Joconde et la Tosca en JPEG, en MP3. On est tous sur la toile, à cliquer vers les étoiles, sur Vénus et pour Citer, faut changer à Jupiter. Le temps passe, le temps presse, de réduire notre vitesse, au hasard des radars, regagnons nos points d'espoir, halte au stress à la fin. On n'a plus le temps de rien, soyons bien, soyons fous, regardons autour de nous, halte au stress à la fin. On n'a plus le temps de rien, soyons bien, soyons fous, et prenons le temps de tout.
Yves Dutheil sur Radio Plus, et en ville, quand on est pressé, eh bien, il vaut peut-être mieux laisser la voiture au garage et prendre le vélo, oui. Mais un édito du journal La Voix du Nord du 18 mai 2020 disait ceci après le déconfinement, je cite, « Ce dimanche ensoleillé, les cyclistes étaient de retour, parfois en grappe compacte. Je suis ravie de partager à nouveau la route avec eux, mais bon, s'ils pouvaient enfin apprendre à rouler en file indienne quand une voiture arrive... » Voilà, c'est une petite phrase qui a déclenché la colère d'une pratiquante du vélo, adhérente de l'ADAV. L'ADAV, c'est l'association Droit au vélo, dont le correspondant pour le Béthunois est Daniel Lourlan, qui a bien voulu être avec nous aujourd'hui pour, on va dire, parler un peu des conduites à tenir sur les routes. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Martine.
Alors, malheureusement, le temps ne nous permettra pas d'encourager l'utilisation du vélo comme moyen de déplacement quotidien. On peut peut-être réserver cela pour une prochaine émission, si vous en êtes d'accord, Daniel. Notre propos s'en tiendra aujourd'hui à cette constatation qu'il est difficile de faire cohabiter sur nos ondes cyclistes et automobilistes, alors qu'avec un peu de respect, de civilité, eh bien cela pourrait être simple. Alors je suppose que vous êtes automobiliste comme tout un chacun, mais aussi cycliste dès que vous le pouvez. Alors cycliste en ville ou cycliste en campagne, Daniel ?
Bah écoutez, les deux, parce qu'en fait j'habite en ville déjà. Donc je fais quasiment tous mes déplacements en vélo en ville pour faire des courses, pour aller à un rendez-vous ou autre. Et puis, quand j'ai un peu de temps, je me promène à la campagne, voilà. Et donc tout ça, ça fait la bonne activité.
Ça fait de vous un cycliste complet. Alors, bien sûr, le bon sens dit qu'il faut adopter sa conduite en fonction du lieu. Mais Daniel, en campagne, lorsqu'on roule à plusieurs, faut-il le faire justement en file indienne, comme semble le vouloir notre chroniqueur de La Voix du Nord, ou vaut-il mieux rouler à deux par deux?
Oui, bah écoutez, le code de la route indique que les vélos peuvent rouler de front deux par deux. Et puis, suite à ce qui s'est passé là avec notre adhérente et puis l'article dans La Voix du Nord et la réponse qu'elle a faite, j'ai vu sur Internet un petit film vidéo qui montrait que c'est en fait beaucoup moins dangereux pour tout le monde de rouler par deux plutôt que de rouler en file indienne. Parce que si par exemple vous êtes un groupe d'une dizaine, en file indienne, ça va faire une 30 mètres ou 40 mètres à peu près à doubler pour une voiture. Alors que si vous êtes deux par deux, bah, il vous faudra deux fois moins de distance. Donc une voiture doublera deux fois plus rapidement en temps des cyclistes qui sont par deux de front, plutôt que les uns derrière les autres. Et de toute façon, une auto pour doubler n'a qu'un seul cycliste, elle doit de toute façon ne pas avoir personne en face. Donc, ça ne l'empêche en rien de doubler les voitures quand les vélos sont deux par deux plutôt qu'un par un, au contraire.
Alors, bon, Daniel, qu'avez-vous justement, vous parlez de dépassement, qu'avez-vous justement envie de dire à l'automobiliste qui d'abord vous suit, puis et puis forcément finit par vous dépasser?
Ben oui, généralement, oui. Et puis souvent, il me dépasse et puis je le retrouve au feu rouge qui est 50 mètres plus loin. Voilà. Donc, ça sert pas à grand chose de doubler les cyclistes, surtout quand il y a beaucoup de circulation. Mais ce que je pourrais leur dire, moi, c'est que quand je suis en vélo, j'ai pas de carrosserie, alors qu'eux ont une carrosserie. Mmh. Et puis, autre chose, si il n'y a pas besoin de me doubler, parce que je prendrai pas sa place de parking quand il va vouloir se garer. Parce que moi, je ne prends pas de place de parking. Et on peut mettre 10 vélos sur une place de parking de voiture. Vous vous rendez compte? Donc, c'est quand même important de pouvoir faire du vélo. Je ne pollue pas, ça, je vous l'ai entendu dire tout à l'heure. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que l'automobiliste, quel qu'il soit, quand il double un vélo, doit laisser en ville 1 mètre d'espace entre lui et le cycliste. Et 1,50 m quand c'est à la campagne, parce que sur les routes de campagne, c'est généralement les automobilistes roulent plus vite, donc il faut laisser un peu plus d'écart. Et 1 mètre, ça permet en fait, un cycliste, surtout le jour où il y a du vent, ne peut pas toujours aller tout à fait en ligne droite. Donc il faut pouvoir prévoir les petits écarts qu'il peut faire. Donc 1 mètre, c'est indispensable. Et puis aussi, le cycliste, lui, il laisse 1 mètre entre lui et puis les voitures qui sont garées sur sa droite. Pourquoi laisser 1 mètre aussi quand je roule en vélo? Il y a 2 choses. C'est que souvent, il y a des portières qui s'ouvrent sans crier gare. Et puis donc là, si je suis juste contre le vélo, contre la voiture, je vais me prendre la portière et puis je vais tomber. Ça peut faire un accident grave. Et puis il y a aussi un autre cas, c'est qu'il y a des voitures qui, toutes les voitures ne restent pas stationnées tout le temps, de temps en temps elles redémarrent. Et puis il y en a un certain nombre aussi qui redémarrent sans mettre leur clignotant. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles quand je suis en vélo, je dois être au moins à 1 mètre des voitures stationnées, et quand une voiture me double, elle doit aussi être au moins à 1 mètre du cycliste. Et ce qu'elle doit faire impérativement aussi, c'est mettre son clignotant. Mettre son clignotant, c'est pas très compliqué, il suffit de tendre l'index gauche, quand vous êtes sur le volant, et vous mettez votre clignotant hyper facilement. C'est vraiment 2 fois rien à faire. Mmh. Et le nombre d'automobilistes qui disent « Ah oui, mais là, derrière moi, il n'y a personne, donc c'est pas la peine que je prévienne. Donc aujourd'hui, je mets pas mon clignotant. Et puis un jour où il y a derrière lui, il y aura aussi 1 ou 2 voitures. Et puis s'il n'indique pas qu'il va dépasser le cycliste, celui qui est derrière, il tombe en dernier moment sur le cycliste, et puis là aussi on risque l'accident. Mmh. Moi je dis 2 choses aux automobilistes. 1 mètre de distance au minimum, et 2, mettez votre clignotant. Et je vous en remercie à l'avance.
Et c'est vrai que vous insistez aussi sur ce fait. Moi, je voudrais insister après ce que vous nous avez dit, sur les automobilistes qui ouvrent leurs portières sans regarder s'il y a un cycliste derrière. Et ça, c'est très très grave parce que, comme vous dites, c'est l'accident. C'est pas l'accident bénin, hein. En général, ça se termine par une fracture du crâne et puis par des séquelles à vie, hein.
Ah oui, c'est sûr.
Alors, en milieu urbain, le vélo est le plus rapide des moyens de transport, vous l'avez dit, hein, puisque vous retrouvez les cyclistes, vous retrouvez les automobilistes au feu rouge. Et en effet, le cycliste ignore les embouteillages et finalement atteint facilement la vitesse moyenne d'un véhicule motorisé. Et une enquête confirme que pour les trajets de 5 km, le vélo est imbattable. Alors par contre, Daniel Dourlan, pour une conduite en ville, il y a des règles, comme vous venez de les énoncer, des règles à respecter, que ce soit pour le cycliste ou pour l'automobiliste. Et justement, moi je pense que toutes les incivilités sont un petit peu liées à une mauvaise connaissance du code de la route, et vous avez sans doute aussi d'autres exemples, non?
Donc il y a celui-là qui est quand même primordial, et puis aussi quand on doit changer de direction, tout le monde doit bien indiquer sa direction, la direction qu'il veut prendre, aussi bien le cycliste s'il veut tourner à gauche. Il faut qu'il mette son bras sur la gauche et qu'il s'assure qu'il peut faire ça en sécurité. Et puis les automobilistes, on leur demande aussi de mettre leur clignotant, de s'arrêter au stop, de laisser la priorité à droite, de laisser surtout la priorité aux piétons. Le piéton, c'est en ville celui qui doit être le plus respecté et respecté en premier.
Et puis il y a les zones de rencontre, comme on les appelle, avec leurs particularités.
Oui, bah c'est un petit peu ce que je viens de dire. Les piétons dans une zone de rencontre, donc c'est généralement dans des centres-villes comme ici à Béthune, ou ça peut être sur un quartier plus limité. En fait, dans une zone de rencontre qui sont limitées à 20 km/h maximum pour tout le monde, le piéton est le prioritaire par rapport à tous les autres types de déplacements. Donc il est prioritaire sur le cycliste. Et le cycliste, lui, est prioritaire sur la voiture et puis les autres camions, autobus et autres, dans une zone de rencontre.
Okay.
Normalement, dans une zone de rencontre, il n'y a pas besoin d'avoir de passage piéton. Le cycliste, le piéton peut traverser à tout moment. Alors bien sûr, je ne vais pas dire au piéton de traverser les yeux fermés. Quand même faire attention, parce qu'il ne faut pas non plus surprendre au dernier instant un automobiliste qui passe là et qui n'aura pas le temps de freiner. Il faut savoir qu'un automobiliste, quand il roule, avant qu'il ne commence à freiner, il se passe une seconde. Donc, dans une seconde, on peut faire 10, 20, 30 mètres suivant la vitesse à laquelle on roule. Donc, il faut que toujours rester très prudent. Et l'important, partout où on circule, quand on peut voir le regard de l'autre, on peut s'assurer à ce moment-là qu'il nous a vus et il sait ce qu'on veut faire. Et puis à ce moment-là, chacun se respecte beaucoup plus facilement.
Tout à fait. Alors Daniel Dourdan, on prévoira une émission pour imaginer ensemble une ville idéale pour les cyclistes.
Ah, voilà. Oui. Bah.
Je vous retiens pour ça.
Oui, bah d'accord.
Et je vous dis merci. Et puis je vous dis donc à bientôt sur cette même antenne.
Allez, bonne journée Martine.
Bonne journée à vous. Au revoir. Et à suivre, Kaléidoscope, c'est tout de suite après la pub. On se retrouve pour une bonne chanson française. À tout de suite.